Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alexandre Dubé.
Les vrais enjeux, les vraies questions.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé.
25 secondes, c'est le temps que ça a repris entre la collision de ce porte-conteneur, le Dali, et le pilier du pont Francis Scott Key à Baltimore. 25 secondes plus tard, la structure s'effondrait comme un château de cartes. Et plus les heures passaient, ben, plus les espoirs de retrouver des victimes vivantes s'amenuisaient. D'ailleurs, la garde côtière et les autorités ont fait le point en soirée. Et essentiellement, on passe d'une opération recherche et sauvetage à opération récupération de corps. On était toujours sans nouvelles de 6 travailleurs qui réparaient des nids de poules sur la structure du pont au moment où le cargo a heurté le pilier, des travailleurs du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Mexique. Ce sont les origines donc de ces 6 travailleurs qui manquent toujours à l'appel. Il y en a 2 qui ont été retrouvés par les autorités. Une personne qui est dans un état grave à l'hôpital et l'autre qui s'en est miraculeusement tiré pratiquement indemne. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Refaisons maintenant le fil des événements. Il était en pleine nuit lorsque le porte-conteneur Dali signale un SOS. Et ça, c'est ce qui a sauvé bien des vies, selon les autorités. On parle même de héros. Parce qu'on a, lancé un SOS qui a permis essentiellement de fermer les accès au pont. Mais visiblement, on n'a pas réussi à évacuer tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Déjà, des pistes d'explication. On parle de perte de puissance, de perte de propulsion pour ce porte-conteneur Dali. Mais c'est une tragédie qui va marquer l'histoire là, du Maryland et bien sûr de Baltimore. Le président Biden déjà a dit on va reconstruire rapidement son administration. On sait que Pete Buttigieg, le secrétaire qui a commenter la tragédie. On va reconstruire rapidement, mais c'est quand même une structure névralgique. Puis dans le Devoir, c'est intéressant, on décrit un peu. D'abord, le pont Francis Scott Key, qui a été ouvert à la circulation le 23 mars 1977, donc une structure qui a eu 47 ans il y a quelques jours à peine, 2600 mètres de longueur, 34 000 véhicules qui circulaient sur ce pont-là à tous les jours. Et c'est sûr, quand on voit ce qui se passe, ben, on ramène ça un peu plus près de nous. On se pose la question, est-ce qu'un scénario catastrophique comme ça pourrait se produire chez nous au Québec? Bon, quand on regarde les principales infrastructures, puis ça avait été dit dans les années 80, la structure qui était, disons, la plus vulnérable aux collisions avec les bateaux, c'était le pont La Violette à Trois-Rivières. Et là, depuis, on a vraiment sécurisé les piliers, on a fait de l'enrochement, si bien qu'un tel scénario ne pourrait pas se produire au Québec. Puis d'ailleurs, Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, a fait une sortie là-dessus. Les 2 ponts à Québec, pont de Québec, pont Pierre-Laporte, sont à peu près à 15 pieds un à côté de l'autre, ben, les piliers de la rive, près de la rive, peuvent pas être atteints par les navires. Donc, on exclut un scénario comme ça. Et à Montréal, ben, il y a une voie navigable. Alors, c'est quand même assez rassurant là, de voir qu'un scénario comme ça ne pourrait pas se produire chez nous. Et quand je vous parlais de reconstruction, Dans le journal, Martin Jolicoeur nous apprend que de nombreuses entreprises québécoises pourraient participer aux travaux éventuels de reconstruction du pont Francis Scott Key de Baltimore. Toujours dans le journal, on parle souvent de la participation de nos élus, mais aussi de nos organisations gouvernementales aux COP, donc ces grandes rencontres de l'environnement. Eh bien, Francis Alain nous apprend que plus d'un demi-million de dollars ont servi à payer la participation d'employés clés chez Investissement Québec à la Caisse de dépôt et de placement et de ministres du gouvernement Legault aux conférences sur le climat de la COP en l'espace de 3 ans. D'abord, Investissement Québec a payé 208 000 pour que 15 de ses employés participent à la COP 26, c'était au Royaume-Uni, COP 27, c'était en Égypte, et la COP 28 aux Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est pour Investissement Québec. Caisse de dépôt et de placement, on est à 125 477 pour 9 personnes pour la même période. Et quand je vous parlais de ministre clé, Pierre Fitzgibbon, qui a participé à la COP 28 avec sa sous-ministre adjointe et son directeur de cabinet adjoint. Pour ce qui est de la facture, on est à un total de 34 868 selon les documents publics du ministère. Novembre 2022, COP 27 en Égypte, 42 589. Et pour ce qui est de Benoît Charrette, il y était aussi avec son sous-ministre, deux conseillers et un garde du corps. On est à 49 454 $ et l'année auparavant, à la COP 26, ben, la facture était d'un peu plus de 50 000 $ selon Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Ben, ça reste des factures salées et il dit même que la transparence laisse un peu à désirer. Et dans la presse, Tommy Chouinard nous rappelle une promesse de François Legault là, qui voulait vraiment diminuer la taille de l'État. Or, avec du recul, c'est vraiment pas ça qui s'est passé. 10 000 fonctionnaires en équivalent temps complet se sont ajoutés, selon la presse, aux effectifs des ministères et des organismes depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, c'était en 2018, et c'est une augmentation de 14,4%. Dans Le Devoir, on revient sur, vous savez, ces fameuses infirmières qu'on recrutait à l'international. On avait pour objectif d'en recruter 1000. Ben, un an et demi après l'arrivée des premières cohortes, c'est un bilan plutôt mitigé, là. Il y a des difficultés d'intégration, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, même des échecs. Donc, sur les 1000, il y en a 300 qui ont passé l'examen de l'ordre des infirmières et infirmiers. 737 qui sont toujours en formation et il y en a une cinquantaine qui ont abandonné le projet. Et sur la scène culturelle, la grande visite en ville, Olivia Rodrigo, qui a été accueillie en reine pour son premier de deux spectacles à Montréal, au Centre Bell. Bienvenue à Cube. Voici votre nouvel épisode.